Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18 heures, 19 heures, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6 heures avant minuit, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette première édition de l'année 2025. Bonne année à tout le monde d'ailleurs, en studio et derrière l'antenne. Hein.
Bonne année.
On célèbre aussi malheureusement autre chose aujourd'hui. Il y a 10 ans, aujourd'hui pile, un attentat djihadiste décimait une partie de la rédaction de Charlie Hebdo. 12 personnes hein, massacrées par les frères Kouachi, des Français qui avaient prêté allégeance à Al-Qaïda. Une décennie plus tard, donc, l'hebdomadaire satirique, fidèle à lui-même, continue d'en rire. Demain paraît un numéro spécial dans lequel sont publiés une quarantaine de croquis issus d'un concours international de dessin pour moquer Dieu. Charlie Hebdo publie aussi les résultats d'une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, réalisée en juin dernier. Elle indique que 76% des Français et Françaises estiment que la liberté d'expression est un droit fondamental et que la liberté de caricature en fait partie. En 2012, ils et elles n'étaient que 58% à le penser. Tout de suite, le flash de Cyriane.
Confiant, c'est le mot employé aujourd'hui par Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, à l'idée d'un prochain cessez-le-feu à Gaza, avant ou après le 20 janvier, date à laquelle Donald Trump, fervent allié d'Israël, doit succéder au président Joe Biden. Une déclaration prononcée après 2 jours de négociations entre Israël et le Hamas à Doha, au Qatar. Discussion en partie bloquée sur 2 points, la permanence ou non du cessez-le-feu et la gouvernance de Gaza après la guerre, l'armée de Netanyahou s'opposant catégoriquement à un retour du Hamas à sa tête. Dimanche soir, un responsable du Hamas a affirmé à l'AFP avoir accepté de, je cite, « libérer 34 otages ». Prisonniers israéliens d'une liste fournie par Israël dans la phase d'un accord d'échange de prisonniers. Un très mince espoir d'arrêt du génocide alors que ce week-end encore les bombes pleuvaient sur l'enclave palestinienne causant la mort de 88 personnes, des décès s'ajoutant aux plus de 45 000 déjà décomptés par le ministère de la Santé du Hamas. En Autriche, le barrage républicain a cédé et l'extrême droite pourrait très certainement arriver à la tête du pays. En effet, Karl Nehammer, le chancelier autrichien conservateur, a été poussé à la démission ce samedi. Pour cause, l'échec des négociations pour une alliance centriste entre son parti conservateur, OVP, les sociodémocrates du SPO et les libéraux de NEOS. Une mission ratée donc est confiée au chancelier autrichien démissionnaire par le président écolo Alexander Van der Bethen au lendemain d'élections législatives en septembre dernier remportées par le parti d'extrême droite du FPO. Papy écolo donc de son surnom a donc convié aujourd'hui le chef de la formation ultra-conservatrice, Herbert Kickl, à Vienne, est la chargée de former un nouveau gouvernement. Il est un des piliers de l'extrême droite au niveau européen, faisant partie du PPE, groupe des Patriotes pour l'Europe, au Parlement, avec notamment Jordan Bardella ou encore Viktor Orban. En cas de succès des négociations par Herbert Kickl, il s'agirait du premier gouvernement autrichien dirigé par l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et une autre démission qui vient de tomber, cette fois-ci outre-Atlantique, c'est celle de Justin Trudeau. Presque 10 ans après son élection en 2015, le Premier ministre canadien a donc annoncé son départ de ses fonctions ce lundi. Il avait pourtant exprimé son souhait de se représenter aux élections législatives, tenues d'ici à la fin du mois d'octobre. Populaire un temps, le Premier ministre devançait de plus de 20 points dans les sondages par son rival conservateur Pierre Poilievre, a vu sa popularité chuter ces derniers mois. Lâché par son allié de gauche en septembre, Justin Trudeau n'avait plus la majorité au Parlement. Son gouvernement a survécu de justesse à une série de votes de défiance et ses détracteurs ont appelé à plusieurs reprises à sa démission. Justin Trudeau a annoncé l'intention de démissionner de son poste de chef du Parti libéral canadien et comme Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef. Son prochain chef à l'issue d'un processus rigoureux et compétitif. Une nouvelle démission qui fait suite à celle de la vice-première ministre Chrystia Freeland en décembre sur fond de désaccord avec lui sur la manière de gérer la guerre économique qui se profile avec les États-Unis. Donald Trump ayant promis d'imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique dès son retour au pouvoir en janvier. À peine condamné définitivement il y a quelques semaines dans l'affaire Bismuth et en appel dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy débute son année 2025 au tribunal aux côtés des trois anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Un procès XXL qui devrait durer 3 mois, jusqu'au 10 avril pour un dossier tentaculaire. Dans cette affaire, la justice va tenter de dégager un faisceau d'indices permettant, ou non, de démontrer la réalité d'un transfert de fonds libyens vers l'entourage de Nicolas Sarkozy afin de financer sa campagne présidentielle 2007. Et ce n'est toujours pas le dernier procès dans lequel l'ex-président est mis en cause. On passe à 2025, mais les préoccupations restent les mêmes du côté des agriculteurs et agricultrices. Eva nous raconte tout cela.
Eh oui, premier lundi de 2025, 7h du matin dans le département parisien et l'opération Escargot commence. Selon des messages publiés sur X par la coordination rurale, voilà le nom donné au convoi de tracteurs se déplaçant sur les autoroutes d'Île-de-France. Depuis les départements limitrophes, comme la Bourgogne ou la Franche-Comté, un cortège circulait ce matin direction la capitale française, avec comme but les Invalides ou le Trocadéro, selon Sébastien Hérault, membre du comité directeur de la coordination rurale. « Nous allons forcer les barrages », annonce-t-il face aux hélicoptères et blindés de la gendarmerie parisienne, empêchant la mobilisation d'atteindre l'entrée de Paris. Il ajoute à France Info que « Tout ce qu'on veut, c'est rencontrer nos politiques et que les décisions soient prises au plus vite. »
Mais de quelles décisions parle-t-on ici, Eva ?
Tout d'abord, selon une des vice-présidentes du syndicat, Sophie Lennartz, à l'AFP, le syndicat demande, je cite, « l'arrêt des surtranspositions des règles européennes en France ». La surtransposition consiste à imposer des normes plus strictes aux agriculteurs et agricultrices en France que les normes européennes le sont. En second point, le deuxième syndicat agricole demande la mise en œuvre, je cite, de contrôle sur les importations plutôt que sur les fermes. Une demande faisant ici référence aux conséquences du traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Les syndicats agricoles français y sont catégoriquement opposés. Fin décembre dernier, le Premier ministre leur a proposé une rencontre le 13 janvier prochain, mais cette date est jugée trop éloignée par le syndicat, qui souhaite être reçu le plus rapidement possible. Sébastien Hérault explique notamment à France Info que le fait d'aligner les normes françaises sur celles européennes leur permettrait, je cite, « de produire correctement et d'éviter cette distorsion commerciale et de production par rapport à nos voisins européens ». Il faut rappeler que la date de cette nouvelle mobilisation n'a pas été choisie au hasard. En effet, du 15 au 31 janvier 2025 auront lieu les élections professionnelles des chambres d'agriculture. Et la campagne pour ces élections commence dès demain. Selon le syndicat agricole de la Confédération paysanne, ces élections déterminent la représentation, le nombre de sièges, des différents syndicats dans les chambres d'agriculture, et par la même occasion leur poids politique, médiatique, ainsi que leur financement pendant les 6 prochaines années. Pour la coordination rurale, dans le Parisien, les actions des agriculteurs et agricultrices pourraient durer 3, 4 ou 5 jours. Leur porte-parole l'affirme, les syndicats n'ont aucunement l'intention d'attendre le 13 janvier pour rencontrer François Bayrou.
Merci Eva pour ton papier. Défaite rageante pour le Stade Rennais à Nice ce week-end. Menés quasiment tout du long de la partie, les Rouges et Noirs n'auront pas réussi à revenir au score, bien qu'ayant réussi à égaliser, puis de remonter à un seul but d'écart en début de deuxième période. Entre dégagement raté, passe lobée et reprise de volée, le match s'est soldé en une victoire niçoise de 2 à 3.
Dur.
Désolé. Mais bon, allez Brest. Quelle justice pour demain ? C'est la question que se posera du mercredi 8 au dimanche 12 janvier le groupement rennais d'Amnesty International à travers le cinéma. Au programme, 5 soirées pour visionner des documentaires et débattre avec des réalisatrices, des avocats et avocates ou encore des militants et militantes pour le climat ou l'accès à l'éducation. Alors, pour en savoir plus sur la défense des droits humains, rendez-vous dans les salles noires du TNB, de l'Arvor et du cinéma Le Sévigné.
Merci Cyriane pour ce premier flash de l'année. Tu l'inaugures.
J'inaugure, c'est beau.
Bravo à toi. Nous avons un invité de marque ce soir dans le studio de 6h avant minuit.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Pull beige avec un grand manteau à la même couleur que ses cheveux, gris et sobre. Vincent Gouézé, le président de l'Université de Rennes 2, est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, je voudrais vous demander en quoi consiste, si vous pouviez résumer un peu, votre poste de président à Rennes 2.
Ah, vaste question. La présidence de d'un établissement comme Rennes 2, c'est superviser, c'est être un peu à la tour de contrôle et superviser l'ensemble des activités de l'établissement, en interne le bon fonctionnement, en enseignement, en recherche et dans le bon fonctionnement des services également, et en externe la représentation de l'établissement auprès des instances nationales, des collectivités territoriales, de l'opinion publique, etc.
Et depuis combien de temps est-ce que vous exercez ce poste ?
Un an et demi. J'ai commencé mon mandat en mai 2023.
Et on parle ici, aujourd'hui on vous a invité pour parler principalement de ce qui se passe en ce moment et des coupes budgétaires qui vont affecter l'université. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer pourquoi ces coupes budgétaires au sein de l'université de Rennes 2 vont avoir lieu ?
Alors, c'est une situation qui remonte, pour simplifier, à 2022. Depuis 2022, la conjoncture nationale s'est un petit peu dégradée avec l'inflation, avec la hausse du coût des matières premières et donc du coût de l'énergie, avec l'endettement de l'État et ses limitations financières, et avec toute une série de mesures qui ont été prises pour augmenter les salaires des personnels, mais sans compensation par l'État. On fait le calcul que depuis 2022, l'État nous a imposé, l'État ou la conjoncture, l'inflation, nous ont imposé des dépenses non compensées pour un total de 9 millions d'euros à peu près. Donc on a un trou dans la caisse de 9 millions et c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui.
Et est-ce que vous avez déjà fait face à ce type de situation, une situation similaire ?
Pas du tout. L'université Rennes 2 a une tradition de bonne gestionnaire. On a un fonctionnement qui est plus centralisé que celui de l'université de Rennes, par exemple, avec toutes ses UFR et toutes ses composantes. Et historiquement, Rennes 2 n'avait jamais été en déficit avant 2022, précisément. Donc c'est nouveau comme expérience pour notre établissement.
Et pour revenir sur les coupes qui vont avoir lieu, est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont-elles et peut-être quels secteurs vont-elles affecter, si vous le savez ?
Alors, il est encore trop tôt pour dire comment seront faites ces mesures de retour à l'équilibre. J'aime pas beaucoup parler de coupes, ça laisse penser que voilà, la machine va cesser de fonctionner, ce qui n'est pas le cas. Tout notre souhait actuellement et toute l'énergie que nous employons dans nos réflexions depuis 6 mois maintenant, c'est comment continuer de faire tourner Rennes 2 tout en étant un petit peu plus sobre économiquement parce que tout simplement, il nous manque de l'argent. Et donc, on essaye de voir comment arriver à faire fonctionner l'université avec des moyens réduits. Voilà, c'est l'enjeu de la réflexion aujourd'hui.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous allez faire pour continuer à faire tourner Rennes 2, comme vous le dites ?
Alors, Rennes 2 est une vieille machine démocratique, vieille dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle a acquis une expérience dans le fonctionnement démocratique de l'institution et où donc les décisions ne se prennent pas à la légère. Nous avons mis en place toute une comitologie, comme on l'appelle, c'est-à-dire tout un système de débat interne, de discussion pour savoir un petit peu, dans un premier temps, d'où vient le déficit. Ensuite, pour calculer dans un deuxième temps où sont nos coûts de fonctionnement, afin de voir dans un troisième temps où est-ce qu'on pourrait faire porter des mesures d'économie de façon la plus indolore possible. Donc actuellement, nous avons mené tout ce travail, mais en dernier recours, et puisque Rennes 2 est une institution démocratique, ce sont ces instances, ces conseils, et notamment son conseil d'administration, qui prendront ces décisions.
Je voulais vous parler du mouvement national Université en danger. Et est-ce que vous soutenez ce mouvement pour lequel les personnels de Rennes 2 se sont réunis en Assemblée générale mardi 3 décembre 2024 ?
Bien sûr, non seulement nous le soutenons, mais nous sommes même en partie à l'origine de ce mouvement. C'est-à-dire que le mouvement Université en danger vient au départ de l'exaspération des présidents et présidentes d'universités qui ont décrété au sein de l'organisme qui nous réunit, qui s'appelle France Université, qui se réunit une fois par mois pour exprimer leur inconfort et leur ras-le-bol, un petit peu, pour parler simplement, de la situation. Et donc, c'est à l'occasion de l'AG du mois de novembre que l'ensemble des présidentes et présidents d'université ont décidé, et j'y étais moi-même, d'aller prendre d'assaut, en quelque sorte, les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur pour aller exposer au ministre la gravité de la situation, puisqu'on a l'impression que le gouvernement et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en particulier n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation des universités françaises. Hein, je rappelle que Rennes 2 n'est pas la seule université en difficulté. Pratiquement toutes les universités françaises aujourd'hui sont en déficit.
Et donc, est-ce qu'il faut s'attendre à peut-être d'autres mobilisations, voire des grèves des personnels au sein de la fac dans les prochains mois ?
Eh bien, j'espère que non. Hein, nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir le dialogue au sein de nos instances, de nos différents conseils, pour essayer de discuter collectivement de la situation. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, nous n'avons pas arrêté de décision, que c'est seulement le conseil d'administration du mois de mars qui adoptera les mesures de retour à l'équilibre financier, ce qu'on appelle le PREV dans notre jargon. Et c'est seulement là qu'on arrêtera un certain nombre de décisions pour voilà, essayer de revenir à l'équilibre en évitant le scénario qui est pour nous le scénario absolument évité à tout prix, qui est celui de la mise sous tutelle de l'université par le rectorat, puisque je rappelle que la loi prévoit qu'en cas de 2 années de déficit cumulé, on y arrive avec l'exercice budgétaire 2023 et 2024 à Rennes 2, le rectorat, hein, qui est l'agent du ministère, si on ne lui soumet pas un plan de retour à l'équilibre convaincant, a libre disposition de prendre la main sur les finances de l'université et donc appliquer sa tutelle.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est une mise sous tutelle ?
Alors, la tutelle, c'est tout simplement la prise de contrôle des finances de l'université de façon à chercher, pour reprendre les termes du rectorat, les mesures les plus rentables à court terme, celles qui vont nous permettre de rétablir l'équilibre financier. Donc ces mesures, elles sont assez simples. Hein. On a 3 catégories de mesures. La plus importante, c'est de geler tous les postes. Hein, aussi bien des enseignants-chercheurs que des personnels BIATS, hein, qui font tourner la machine Rennes 2. C'est ensuite d'appliquer aux étudiants étrangers extra-communautaires, qui à Rennes 2 sont essentiellement des étudiants originaires d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, principalement des pays du Sud, de leur appliquer les droits différenciés que la loi avait instaurés en 2019 et contre lesquels Rennes 2 s'est toujours rebeller, à refuser de les appliquer jusqu'à maintenant. Avec une tutelle du rectorat, il aurait la liberté d'imposer à ses étudiants internationaux des droits différenciés, c'est-à-dire très supérieurs aux droits d'inscription des étudiants français. La troisième catégorie de mesures, ce serait le gel des déplacements, puisque là aussi, chaque fois qu'on se déplace, ça a un coût, et donc nous empêcher de circuler pour voilà, faire des mesures d'économie.
Est-ce que ce retour à l'équilibre ou cette tentative de retour à l'équilibre va affecter, par exemple, donc vous avez parlé des étudiants, du personnel, mais aussi les associations en rapport avec Rennes 2. Comment est-ce que vous pouvez prévoir déjà les conséquences que ça va avoir ?
Alors, fort heureusement, les associations étudiantes, qui sont la fierté de l'établissement, hein, on a 90 à peu près associations étudiantes et beaucoup d'universités en France nous envient la vitalité de ces associations étudiantes. Elle fonctionne pour l'essentiel sur des crédits qui sont sanctuarisés. C'est les fonds de la CEVEC et du FSDIE. Pardonnez-moi pour ces acronymes, hein, c'est un peu du jargon. Mais enfin, il y a un dispositif de financement qui, lui, n'est pas fongible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas puiser dans cette caisse pour boucher le trou financier de l'établissement. Donc, dans tous les cas, les financements associatifs ne seront pas touchés par les mesures d'économie. Ça, c'est très important de le rappeler. Par contre, toutes les mesures d'austérité de type suppression de postes auraient inévitablement des conséquences sur l'offre de formation, puisqu'avec moins d'enseignants-chercheurs et moins de personnel administratif, on ne peut pas maintenir la même offre de formation. Et c'est donc un petit peu la raison pour laquelle on veut à tout prix éviter ce scénario de tutelle par le rectorat.
Est-ce que c'est des coupes qui peuvent aussi affecter les bâtiments même de Rennes 2? Je sais que Rennes 2 essaye de faire très attention aux émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments. C'est des mesures qui peuvent affecter cela?
Alors, nous avons une politique effectivement de transition socio-écologique ou socio-environnementale qui passe beaucoup par la rénovation du bâti. Pourquoi ? Parce qu'on a un campus des années 70 qui est, pour certains bâtiments, sont parfois des passoires thermiques. Hein, c'est le cas du campus de la Harpe, par exemple. Et en jouant sur la rénovation énergétique de bâtiments, on joue sur la consommation, sur le chauffage, hein, tout simplement, et donc sur un des principaux postes de dépenses de l'établissement. Donc, en faisant cette rénovation écologique des bâtiments, non seulement on rénove notre bâti, ce qui est important, hein, vous avez vu le bâtiment E, le bâtiment D, qui sont des très jolis bâtiments, le bâtiment A qui va sortir de terre bientôt sera un très joli bâtiment également, mais en plus, on fait des économies. Donc évidemment, on va essayer de ne pas toucher sur les mesures de rénovation des bâtiments, puisque ces rénovations nous permettent de faire des économies.
Est-ce que vous avez l'impression que la situation nationale avec le nouveau gouvernement a une influence, joue sur les possibles décisions du CA? Est-ce que le vote de budget ou pas pour l'année 2025 pourrait faire changer les décisions, ou ça n'a pas d'incidence selon vous?
Si, bien sûr, et c'est tout l'enjeu du mouvement Université en danger, puisque dans le mouvement Université en danger, on demandait au gouvernement de maintenir un budget constant aux établissements, et surtout un budget qui tienne compte de l'inflation et de la hausse de nos coûts de fonctionnement. Et on demandait surtout au gouvernement de ne pas aggraver notre situation financière en nous imposant des mesures, des dépenses supplémentaires qui impacteraient notre budget. Alors, le gros sujet de discussion avant la chute du gouvernement Barnier, c'était le casse-pension, c'est-à-dire une augmentation du financement des retraites, hein, des anciens personnels de l'enseignement supérieur, qui serait imputée aux universités. Nous, on considère que notre budget, il doit faire tourner l'établissement tel qu'il est, et que si le gouvernement veut augmenter les pensions, ce qui est une cause tout à fait légitime, hein, je serai moi-même un jour retraité et je serai bien content de voir ma pension augmenter, ça, c'est une mesure qui ne doit pas être prise sur le fonctionnement normal des universités. Et donc, le gouvernement a chuté en ayant refusé de revenir sur ce casse-pension, et avec un nouveau gouvernement, Bayrou, qui a la même coloration que le précédent, le risque, c'est effectivement du retour de cette mesure du casse-pension qui, selon nos estimations, aurait un coût d'à peu près 1,7 million sur notre budget. Donc actuellement, on termine l'année 2024 avec un déficit de 4 millions. Si on rajoute à ces 4 millions de déficit 1,7 million de cas de pension, vous voyez que on augmente considérablement le déficit de l'université. C'est ce qu'on veut éviter et c'est pour ça qu'il faut maintenir la pression sur le gouvernement.
D'accord. Eh ben, d'ici là, on reste à l'écoute et puis on parlera de la suite en mars, alors après le CA. C'est début mars, c'est ça?
Oui, c'est courant mars.
Courant mars, effectivement, ok. Ouais. Eh ben, on se donne rendez-vous à la mi-mars. Merci beaucoup Vincent Gouezet d'être venu sur notre studio pour nous parler des finances de Rennes 2.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
C'est fini.
C'est lundi. Et ben non, c'est pas fini. Il y a une petite chronique encore. Le lundi, on fait la chronique fake news, en fait. On décrypte une fake news tous les lundis. Et puis aujourd'hui, bah, c'est Eva qui va nous parler de. Qui va nous décrypter une fake news. 3 semaines se sont écoulées depuis le passage de Chido. Je sais pas si vous vous souvenez, le cyclone le plus violent et destructeur observé à Mayotte depuis pratiquement un siècle. De cette situation catastrophique, plusieurs informations ont circulé dans les médias, mais ne s'avèrent pas tout à fait vraies, Eva.
En effet, après le cyclone Chido qui a ravagé Mayotte, soit passé décembre dernier, la vie sur l'île n'a pas repris son cours face aux dégâts humains et matériels. Des centaines de morts, des milliers d'habitations et de routes détruites, et des ressources essentielles non disponibles, telles que l'eau ou l'électricité. Et ces deux dernières ont été la source de fake news. La première concerne la ressource en eau, et la voici tout droit sortie de la bouche du député RN du Loiret, Thomas Ménager, à France Info vendredi dernier. Je cite « L'année dernière, au moment du projet de loi de finances, on a déposé un amendement de 100 millions d'euros pour l'accès à l'eau en Outre-mer, et notamment à Mayotte, et tous les groupes politiques ont voté contre. » Mais voilà, ce n'est pas totalement vrai. Il est vrai que son parti a bel et bien déposé un amendement pour faciliter l'accès à l'eau en Outre-mer, et ça deux fois. Une fois en 2023 pour le budget de 2024 et une deuxième fois en 2024 pour le budget de 2025. Plus exactement, c'est le député RN du Gard, Johan Gillet, qui a déposé ces deux amendements les deux années consécutives. Il a également demandé la création d'un plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer d'une valeur de 50 millions d'euros. Donc vous voyez un peu le problème. Et oui, l'amendement déposé par le RN ne parlait pas de 100 millions d'euros, comme l'a dit le député Thomas Ménager, mais bien de 50 millions d'euros. Il n'est d'ailleurs pas le seul parti à avoir proposé un tel amendement. Le Parti Socialiste, tout d'abord, a lui proposé un plan d'urgence de 100 millions d'euros et la France Insoumise de 500 millions d'euros. Les comptes rendus consultables dans les archives du site de l'Assemblée nationale témoignent de ces propositions d'amendements spécifiques. Cependant, le détail des votes des groupes politiques n'y est pas mentionné. On ne peut donc pas vérifier si, comme le prétend le député RN, tous les groupes politiques ont voté contre l'amendement du RN. La deuxième fausse information concerne l'électricité à Mayotte et a été démentie hier soir par la députée de Lille, Estelle Youssoufa. En effet, hier, dans l'après-midi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que 69,7% de la population générale mahoraise avait de nouveau accès à l'électricité depuis sa coupure causée par le cyclone qu'il y a eu 3 semaines. Cependant, la députée de Mayotte a déclaré à France Info que cette affirmation était fausse. Selon elle, ce qui est vrai, c'est que les lignes de haute tension et de moyenne tension ont été remises, mais avoir de l'électricité dans son foyer, c'est dans la granularité, et là, c'est beaucoup plus loin. Estelle Youssoufa ajoute qu'elle soupçonne le gouvernement d'avoir donné cette information pour montrer que ça avance, comme promis par le Premier ministre François Bayrou lors de sa visite sur l'île. Elle affirme que la situation à Mayotte est au centre du jeu politique, avec la présence de Marine Le Pen actuellement sur place, et déplore d'ailleurs l'absence des élus de la gauche sur l'île. Pour rappel, l'objectif officiel du ministère de l'Intérieur est de rétablir l'électricité dans tous les foyers d'ici la fin du mois.
Merci Eva, heureusement que tu es là pour nous aider à y voir plus clair dans tout ça.
De rien.
Notre répondeur clignote, on a eu un message pendant les vacances.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
La radio sauvage.
Ouais, super soirée à la Marylis. Franchement, ça balance à fond. On a deux potes qui sont entrés ensemble dans les chiottes. Est-ce que c'est possible de savoir ça? Franchement, incroyable de fou. Franchement, c'est le banger avant 2025. C'est l'endroit où être. J'espère que ça passera à la radio. C'est ce soir, c'est maintenant, c'est à la Marylis. Merci.
Et merci à vous de nous faire partager votre soirée du Nouvel An, visiblement, hein, je pense.
Le banger de cette fin d'année 2024, voilà. Je crois qu'il fallait être
la dernière grande soirée.
Voilà.
Je crois que c'était une soirée rap et techno, il me semble.
Si jamais vous voulez nous partager d'autres faits de votre vie, si vous avez un retour sur nos reportages, sur nos flash infos, des choses peut-être un petit peu plus profondes à nous faire parvenir, bon bah voilà, n'hésitez pas, laissez-nous un message vocal, il sera diffusé à la fin de l'émission, comme celui-ci, le numéro c'est le 02 30 96 25 35. Un tout dernier petit message avant qu'on se quitte. SILAB vous offre 2 places pour un spectacle organisé dans le cadre du festival Waterproof. Il s'agit
Pardon, il s'agit de la Conférence sur rien, ça ne s'en demande pas, de John Cage, lue par Jérôme Bell à la chapelle du Conservatoire de Rennes. Ça se passe le samedi 25 janvier prochain à 20h30. Le spectacle, en quelques mots, je n'ai rien à dire et je le dis. Voilà, une réflexion philosophique, éthique et politique. Pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe que je vous transmets. Et pour rester dans le thème, le mot de passe est « il n'y a pas de mot de passe ». Voilà. Pour jouer, ça se passe sur c-lab.fr. Merci Nicolas pour la technique. À demain. Merci.
Si, la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.